Bonjour à toutes et à tous, Alexandre Carrette au micro, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'invité de la semaine d'ONU Info Genève. On ne compte plus les conséquences désastreuses de la Covid-19 dans tous les domaines de la vie. Les personnes les plus vulnérables sont aussi celles qui sont le plus impactées par la pandémie. Des centaines de millions d'emplois ont été perdus en quelques mois. Les personnes vivant de l'économie informelle ont vu du jour au lendemain leurs revenus s'effondrer en raison du confinement. Les États ne sont évidemment pas restés les bras croisés face à cette situation. Ils ont pris de nombreuses mesures de protection sociale, mais selon des experts, elles sont largement insuffisantes et ces mesures sont souvent inaccessibles pour les populations les plus vulnérables. Résultat, près de 176 millions de personnes supplémentaires risquent de tomber dans la pauvreté. Et selon la dernière édition du rapport de la Banque mondiale sur la pauvreté et la prospérité partagée, pour la première fois depuis 20 ans, le taux d'extrême pauvreté augmentera dans le monde, alors que la tendance de ces dernières années était plutôt à la baisse. Samedi dernier, le 17 octobre, c'était la journée mondiale pour l'élimination de la pauvreté. À cette occasion, nous recevons Olivier de Schutter, expert indépendant de l'ONU sur l'extrême pauvreté. C'est notre invité de la semaine. Olivier de Schutter, bonjour.
Bonjour.
Un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Alors tout d'abord, un petit mot sur le prix Nobel de la paix attribué il y a quelques jours au Programme alimentaire mondial. Il faut savoir qu'avant d'avoir été nommé rapporteur spécial sur l'extrême pauvreté, vous aviez été rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à l'alimentation. Alors ce prix permet de mettre un coup de projecteur sur une problématique qui semble aujourd'hui un peu effacée de l'agenda politique, celle de la faim dans le monde.
Oui, c'est vrai qu'on en parle peu, trop peu, parce que les chiffres de la faim dans le monde en réalité augmente depuis l'année 2015 en raison à la fois de chocs climatiques et de conflits dans différentes parties du monde. On assiste à une régression du point de vue des chiffres de la sous-alimentation. Et donc, je me réjouis que le Programme alimentaire mondial, qui fait plus que l'aide alimentaire, qui aide aussi, notamment par une politique d'achat locaux, à soutenir les économies rurales, soit récompensé par ce prix Nobel de la paix. Ça me paraît extrêmement important aussi de souligner le lien entre aide alimentaire et conflit, parce que une fois que les personnes en détresse sont obligées de se déplacer à défaut de pouvoir être aidées là où elles se trouvent, cela crée des tensions dans les régions d'accueil, cela prive les personnes de l'accès à leur champ ou à leur cheptel, et cela devient extrêmement difficile d'éviter qu'une crise à partir de ce moment-là ne se développe. Et donc je trouve ça excellent.
Alors je le disais en introduction, la pandémie de Covid-19 a eu des répercussions dramatiques sur les personnes les plus vulnérables. Est-ce qu'aujourd'hui le monde a pris la mesure du défi que cela représente ?
Écoutez, nous avons vu des réactions tout à fait importantes du point de vue quantitatif des États dans toutes les régions du monde. On a comptabilisé plus de 1400 mesures de protection sociale adoptées depuis le début de la crise au printemps 2020, totalisant quelques 690 milliards de dollars en protection sociale pour répondre à la crise. Mais il faut nuancer ce constat. D'abord, ce montant est relativement faible en comparaison aux 11 000 milliards de dollars injectés dans l'économie pour permettre à l'économie de repartir. En d'autres mots, c'est une fraction relativement faible des efforts des États qui sont allés à la protection sociale. Et deuxièmement, beaucoup de personnes, en réalité, ne bénéficient pas de ces mesures parce qu'elles ne sont pas identifiées comme ayant des besoins, parce qu'elles ne sont pas enregistrées auprès des administrations, parce qu'elles sont dans l'impossibilité de remplir les formulaires qui leur permettraient d'avoir accès à certaines aides, par exemple. Et donc, malheureusement, les personnes les plus pauvres, les plus vulnérables, pour une série de raisons, n'ont pas nécessairement accès à ces filets sociaux qui ont été déployés dans l'urgence par les États.
Alors concrètement, que peuvent faire les États justement pour prendre en compte ces personnes et pour éviter que, c'est votre chiffre, 176 millions de personnes supplémentaires tombent dans la pauvreté ?
La priorité aujourd'hui, et beaucoup de gouvernements enfin le reconnaissent, c'est de développer à l'échelle universelle pour tous et pour toutes des socles de protection sociale qui protègent les individus du berceau à la tombe, si vous voulez, à travers des allocations familiales, des allocations de maternité, des allocations de chômage, des allocations maladie-invalidité, des pensions de vieillesse. Ces socles de protection sociale, les États se sont engagés à les rendre universels en adoptant une recommandation numéro 202 au sein de l'OIT en 2012. C'est encore un engagement pris dans le cadre des objectifs de développement durable, mais on reste encore très loin de cet objectif avec aujourd'hui à peu près 55% de la population mondiale qui n'a aucune protection sociale quelconque, et seulement à peu près 29% de la population mondiale qui a accès à l'ensemble des garanties d'un socle de protection sociale. Donc il faut faire des efforts beaucoup plus importants pour avancer dans cette direction, et je crois que là, il faut arrêter de s'abriter derrière le prétexte de l'absence de financement. C'est vrai que beaucoup d'États sont très pauvres, ont à supporter le poids d'une dette extérieure très importante. C'est vrai qu'ils ont d'autres priorités que la protection sociale de leur population, mais si on ne prend que les pays les moins avancés, les 47 pays les plus pauvres du monde, le déficit de financement qui permettrait à ces pays de couvrir l'ensemble de la population en garantissant des socles de protection sociale, ce déficit de financement n'est que de 78 milliards de dollars. 78 milliards de dollars, c'est la moitié à peu près de l'aide publique au développement que les pays riches de l'OCDE versent aux pays en développement. C'est donc abordable, c'est finançable, il faut simplement qu'on fasse de cela une priorité politique.
Vous dites que les impacts les plus importants de la pandémie sur la pauvreté sont encore à venir. Peut-on craindre alors une déstabilisation de nos sociétés ?
C'est vrai que beaucoup de ces nombreuses mesures de protection sociale adoptées dans l'urgence au cours de la crise sont des mesures, en fait, de court terme. Très souvent, les États ont pris ces mesures pour couvrir les périodes de confinement où l'économie a été mise en coma artificiel, si vous voulez, où les écoles et les entreprises ont été fermées. Et aujourd'hui, beaucoup de ces mesures vont expirer. Et les pays, en outre, ont augmenté les déficits de manière considérable et n'ont pas donné l'impression qu'ils allaient continuer de maintenir en vigueur ces mesures. Donc le plus dur est à venir parce que les mesures prises dans l'urgence bientôt vont être suspendues.
Alors on le sait, vous êtes très investi dans la recherche d'un monde plus égalitaire. Est-ce que justement le contexte de la pandémie va permettre de remettre à plat l'organisation de nos sociétés pour les rendre moins inégalitaires ? Au contraire, la pandémie risque de renforcer les inégalités ?
Il est clair que pour l'instant, la pandémie a renforcé les inégalités, à la fois parce que les personnes qui vivent dans la pauvreté ont été les premières victimes de la crise sanitaire. Mais en outre, ce sont ces personnes qui ont le moins de capital financier leur permettant de surmonter quelques mois d'inactivité économique. Ce sont ces personnes qui ont perdu leur emploi le plus vite parce que ce sont des personnes souvent dans des emplois précaires ou précisément informels. Et donc malheureusement, les impacts de la crise vont être beaucoup plus lourds et importants pour les personnes déjà dans des situations vulnérables.
Olivier De Schutter, pour en venir à votre mandat de rapporteur spécial sur l'extrême pauvreté, vu le contexte, est-ce que vous avez dû revoir vos priorités ?
Ces crises sont toujours dramatiques sur le plan humain. Elles sont en même temps une occasion de faire passer certaines idées auprès des gouvernements qui, enfin, prêtent à ces idées une oreille plus attentive, se rendant bien compte que le système qu'on a mis en place jusqu'à présent n'a pas la résilience nécessaire et que nous ne sommes pas à l'abri de nouveaux bouleversements en cas de crise répétée à l'avenir. Et parmi les idées que nous développons, il y en a deux qui me tiennent particulièrement à cœur. La première est celle d'un fonds mondial pour la protection sociale qui soutiendrait les efforts des pays en développement pour mettre sur pied des socles de protection sociale. C'est donc un grand projet. Je me réjouis que Guy Ryder, le directeur général de l'OIT, Michel Bachelet, la haute commissaire aux droits de l'homme, soutiennent cette idée. Et puis, deuxième proposition, c'est que l'on arrête de miser les efforts de lutte contre la pauvreté entièrement sur des interventions après marché, si vous voulez. Aujourd'hui, la lutte contre la pauvreté passe par une fiscalité progressive et par des politiques sociales qui redistribuent les revenus. Et c'est très important d'aller dans ces directions. Mais c'est encore plus important d'avoir des marchés qui n'excluent pas un grand nombre de personnes et qui ne rabotent pas les salaires, qui ne condamnent pas au chômage des personnes sous prétexte qu'elles sont insuffisamment qualifiées. Il faut des marchés beaucoup plus inclusifs pour éviter de devoir chaque fois compenser les inéquités, les inégalités qui sont la cause des mécanismes du marché. Et donc il faut aussi des interventions non seulement post-marché, mais également pré-marché, des marchés plus inclusifs, une économie plus inclusive qui au fond reconnaissent que chacun, chacune peut contribuer à la société pourvu que l'on lui donne sa chance et pourvu qu'on donne un accès suffisant aux formations nécessaires pour que cette personne puisse se rendre utile.
Pour terminer, Olivier de Schutter, malgré ce contexte particulièrement noir que l'on vient de décrire dans cette interview, est-ce que vous voyez des raisons d'espérer ? Est-ce qu'il semble y avoir une lumière au bout de ce long tunnel ?
Ce qui me paraît extrêmement réconfortant, c'est que personne ne paraît vouloir revenir simplement au monde d'avant. L'on a pris conscience beaucoup mieux, je crois, qu'en 2009-2010, lors de la grande crise financière à l'époque, que les mécanismes que nous avions mis sur pied avant la crise ne sont pas suffisants pour protéger les personnes contre l'exclusion. Il faut reconstruire, oui, mais il faut reconstruire en mieux et reconstruire à travers des plans de relance économique qui à la fois favorisent la transition écologique et énergétique et favorisent l'accès à l'emploi pour des personnes à faible niveau de qualification et l'accès à l'énergie, à un logement, à des biens de consommation abordables pour les personnes en grande pauvreté. Et je crois que c'est aujourd'hui notre dernière chance de mettre l'économie mondiale sur une trajectoire beaucoup plus soutenable. La reconstruction économique va impliquer des choix tout à fait décisifs pour les 10 ou 15 années qui viennent. C'est une occasion unique qui nous est donnée de changer de cap. Et ceci à condition de prendre conscience de l'opportunité que la crise nous donne de réorienter nos investissements vers les secteurs de l'économie qui sont pourvoyeurs d'emplois, qui permettent de réaliser la transition écologique et qui permettent de garantir aux personnes en grande pauvreté l'accès à des biens et services nécessaires pour que ces personnes puissent conduire une vie décente. Et c'est le vœu que je formule et c'est le vœu que beaucoup d'autres aujourd'hui expriment.
Un grand merci Olivier de Schutter d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le rapporteur spécial de l'ONU sur l'extrême pauvreté. Et c'est la fin de cette édition. Je vous donne rendez-vous vendredi pour un numéro spécial d'ONU Info Genève à l'occasion du 75e anniversaire de l'ONU, durant laquelle des Genevois feront part de leur vision de la Genève internationale du futur et de l'avenir des Nations Unies. L'actualité des Nations Unies continue sur le site web ungeneva.org et sur le compte Twitter en français ONU Genève. À très bientôt.